Scénariste est un métier parfois solitaire qui implique bien souvent de longues heures passées chez soi à composer. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête de ces écrivains. Est-il plus facile de travailler à deux ou à quatre mains? Comment faire quand on s'empare d'un matériau préexistant? Autant de questions auxquelles nous répondrons peut-être ce soir avec notre invité Gilles Marchand. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Gilles Marchand, je le disais plus ou moins, tu es scénariste de cinéma, c'est-à-dire qu'on te doit les scénarios d'un grand nombre de films français assez marquants, on peut le dire, de ces 20 dernières années, notamment des films de Dominique Moll ou Laurent Cantet, comme Ressources humaines, Harry, un ami qui vous veut du bien, et plus récemment La nuit du 12, pour lequel, il me semble, tu as reçu le César du meilleur scénario adapté.
Tout à fait.
Voilà. Donc, à quel moment est-ce que tu es tombé, pour le dire comme ça, dans le cinéma? À quel moment ça a pris une place si importante dans ta vie?
Alors, très tôt, en fait, gamin, devant la télé, j'ai commencé à regarder des films, puis après je suis allé tout seul au cinéma, je devais avoir 12-13 ans, j'avais un cinéma qui n'était pas trop loin de chez moi, et voilà, avec mon argent de poche, j'avais une petite carte de fidélité, et je voyais des films, je ne sais pas pourquoi, ça m'a... immédiatement tapé sur le cerveau et c'était ma passion.
Ça a déclenché quelque chose en toi d'assez fort.
Oui, l'idée de comme ça de films qui nous rentrent dans la tête, qui sont des mondes qu'on traverse, tout ça, ça m'a tout de suite embarqué, ça m'a jamais quitté. Et l'idée de faire partie de la fabrication de ces curieux objets que sont les films, je dis objets par dessin, parce qu'évidemment, c'est pas des objets qu'on tient dans la main, mais c'est quand même des choses qu'on fabrique de manière assez artisanale, malgré tout. Et voilà, l'idée d'y participer d'une manière ou d'une autre m'a tout de suite fait rêver.
Et alors, il y a une bonne partie des films sur lesquels tu as travaillé qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, s'apparenter au cinéma de genre. Est-ce que déjà, à l'époque, tu avais une prédisposition, un tropisme pour ce genre de cinéma?
Comme spectateur, très vite, oui, c'est quand même le cinéma noir m'a tout de suite attiré. Enfin, j'ai vu à la télé les films d'Hitchcock, j'ai resté complètement scotché. Ça m'était très facile, alors que par exemple les westerns, qui ont produit évidemment aussi pas mal de chefs-d'œuvre, me laissaient
de marbre.
pas de marbre, mais circonspect. Je comprenais, je les confondais tous.
Donc finalement, dès un âge assez jeune, le cinéma a pris cette place-là dans ta vie. À quel moment tu as sauté le pas, puisque tu disais que participer à la fabrication de ces objets, ça pouvait t'intéresser, et tu as sauté le pas puisque tu as fait ensuite une école de cinéma. Comment s'est fait ce cheminement-là?
Alors, sans être trop long, si je raconte tout, il y a quand même une petite anecdote qui est amusante, qui est qu'en troisième, il y avait comme ça une journée d'orientation dans le Bahut, et je m'étais renseigné sur l'école de cinéma qui était la plus importante à l'époque, qui s'appelait l'IDEC, qui est devenue la FEMIS. Ouais. Et quand je suis arrivé devant la conseillère d'orientation avec ma petite fiche de renseignement sur l'IDEC, elle m'a dit « Oh là là, mais ils prennent 20 personnes par année, toi t'es pas nul, mais t'es pas non plus un élève très brillant, tu peux pas comme ça te dire je vais faire ça, il vaut mieux quand même préparer, avoir des choses un peu plus généralistes. » Et du coup, moi je me suis senti vraiment très honteux, je me suis dit « Mais t'es complètement fou, toi tu croyais comme ça que t'allais faire... du cinéma. » Et donc j'ai remballé l'idée pendant des années. Puis bon, au moment du bac, je me disais quand même je voudrais pas m'éloigner trop. Donc j'ai fait une école de photographie à Marseille, et il s'est trouvé que qui était dans le cadre d'une fac de chimie, et dans cette école de photo, en fait, deux années au-dessus de moi, il y avait Laurent Cantet qui faisait aussi cette école de photo, et qui, lui, avec un autre ami, a passé le concours de l'IDEC, l'a raté une première année, puis il a réussi la suivante. Et du coup, je me suis dit, mais lui, il est pas plus... Enfin, je le connaissais un peu, on était assez copains. Je lui ai dit, si c'est une bonne idée, je vais essayer moi aussi. Et voilà,
si lui, il a réussi, peut-être que moi,
je peux réussir moi aussi. Bon, moi, je connaissais personne dans ce milieu, et je pense que sans école, j'aurais pas osé. Maintenant, quand je parle à des jeunes gens passionnés, je leur dis, les écoles, c'est formidable, mais on peut aussi oser, enfin, si on aime vraiment ça, il faut pas attendre seulement la légitimité institutionnelle, on peut aujourd'hui se lancer. Voilà, mais moi, à l'époque, c'est sûr que j'aurais pas osé, donc réussir le concours de l'IDEC m'a mis en contact avec des tas d'autres gens. Dans une année au-dessus de moi, il y avait Laurent Canté et Robin Campillo qui étaient dans la même promo. Dans ma promo à moi, il y avait Dominique Moll, Vincent Dietschy, Thomas Bardinet et plein d'autres. Et on s'est mis... Enfin, la règle du jeu de l'école, c'était de faire beaucoup tourner, de faire des films en travaillant à différents postes, les uns avec les autres. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Et on était tous en réalisation. L'idée, notre rêve, c'était tous de réaliser des films. Et on est un certain nombre à en avoir fait. Et certains en fait pas mal et des pas mal.
Oui, tout à fait, puisque tu citais les noms de Dominique Moll. Donc, je disais, le réalisateur, son dernier film en date, c'était La Nuit des 12, qui a connu le succès public, critique et même au César, que l'on sait, notamment avec le scénario, le prix du meilleur scénario dont je parlais. Laurent Canté également, on va y revenir sur le film Ressources humaines, et il a ensuite gagné la Palme d'Or avec le film Entre les murs. Et tu citais enfin Robin Campillo, également bien connu pour le succès de 120 battements par minute et de son dernier film, L'Île Rouge. Tu es resté un compagnon de route, pour le dire comme ça, de tous ces cinéastes. Tu es toi-même passé derrière la caméra un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard également. Si on prend ce qui t'a vraiment mis sur la carte, pour le dire comme ça, c'est les deux succès quasiment coup sur coup de Ressources humaines de Laurent Canté et de Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll. Quelle a été la genèse de ces deux films ?
Alors bon, c'est deux films qui sont très différents. Nous, comme je disais, on avait l'habitude de travailler les uns avec les autres dans le cadre de l'école. Et puis après, on a continué sur des courts-métrages à travailler les uns pour les autres. J'étais surtout les courts-métrages de Laurent Canté et le premier long de Dominique Moll aussi. Et donc, on se donnait des coups de main. Voilà, et il s'est trouvé que le scénario de Harry, un ami qui veut du bien, on l'a écrit vraiment avec Dominique dans ma cuisine. Il était venu comme ça avec une idée, il avait noté des bribes de scènes, des trucs, et pendant des semaines, des mois, on a échangé, on a fait du ping-pong à partir de ses envies, de l'effet que ça produisait sur moi, mais totalement entre nous, sans aucune production. Pour Laurent, c'était un peu différent. En fait, ses courts-métrages avaient été très remarqués. Et Oécourt, qui était une toute jeune maison de production, avait demandé déjà une première fois à Laurent de faire un truc pour Arte qui s'appelait L'an 2000 vous part, qui était un segment d'une série de cinéastes du monde entier.
Une anthologie.
Schéma imposé, c'était d'une certaine manière qu'il devait y avoir le passage à l'an 2000 dans cette série. Donc on avait fait, enfin, Laurent avait réalisé, et j'avais écrit avec lui, l'épisode français. Et là-dessus, Arte était très content du film et a demandé tout de suite à Laurent d'en proposer un autre, mais qui était donc a priori pour la télé, enfin, qui n'était pas voué à sortir.
Un unitaire d'Arte, c'était plutôt pensé comme ça à la base.
Alors à l'époque, il y a eu toute une période comme ça. Pierre Chevalier dirigeait la section fiction d'Arte. Et il a beaucoup sollicité des gens du cinéma et des jeunes gens. Et les films sont pour beaucoup sortis en salle. Il y a eu comme ça des films de Claire Denis, de Téchiné.
Oui, avec des précédentes anthologies notamment. Il me semble que c'était tous les... Voilà ce que j'allais dire. André Téchiné en avait signé un. Et ça, en fait, il y avait eu un beau succès à la télé qui s'était prolongé en salle, en fait. Ouais.
Et donc, il y avait une espèce de... pas de commande, mais de confiance de la part de Pierre Chevalier d'Arte, qui disait, propose-nous quelque chose avec Oécourt, on le produira. Et avec Laurent, on a fait comme ça, dans la même période, un peu que le scénario de Dominique, on a écrit le scénario de Ressources humaines. Et donc les deux films, effectivement, ont été réalisés à quelques... semaines, mois d'intervalle, sont sortis en salle la même année. Et effectivement, il y a eu beaucoup de nominations au César, et notamment les deux scénarios. Nous, on venait vraiment de nulle part. Le film de Dominique, Harry, s'était retrouvé à Cannes et avait eu vraiment un écho fantastique, avait fait 2 millions d'entrées, il était vendu dans le monde entier, les Américains adoraient ça. Nous, on ne se rendait pas bien compte de ce qui nous tombait dessus. Et moi, je me suis retrouvé avec l'étiquette, effectivement, de scénariste, parce que je co-signais deux films très différents et qui avaient été très remarqués par la profession et le public. Donc là-dessus, j'ai eu pas mal de propositions.
De sollicitations, oui.
De sollicitations de gens. Et notamment, ça m'a donné l'occasion de travailler avec Jean-Paul Rapneau sur
Bon Voyage,
qui a été une aventure démente. Mais voilà, au départ, c'est vraiment l'idée de travailler les uns avec les autres, sans se poser vraiment la question de est-ce que je suis ceci ou cela, scénariste ou assistant. Ou, il s'est trouvé que la fonction était celle-là dans cette aventure-là pour ces deux films et que c'est presque le... Oui, encore une fois, le succès des films qui a déterminé un pan de...
Et justement, tu disais ces succès-là, ça t'avait donné cette... on t'avait apposé un petit peu cette étiquette de scénariste. Parce que toi, à l'époque, tu avais peur presque que ce succès te catalogue ou qu'on te commande des choses qui étaient... je pensais notamment à Harry, qui était un film très particulier, que quand on vient de te voir, on te demande que des choses comme ça.
Non, enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme on ne se rendait pas compte, moi, je ne me rendais vraiment pas du tout compte des opportunités que ça pouvait créer. J'ai fait des rencontres, j'ai travaillé pendant un moment avec Téchiné, mais le film ne s'est pas fait. J'ai travaillé longtemps avec Rapneau sur un film qui s'est fait, puis un autre qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Donc ça, c'était moi, j'étais ravi de ces rencontres-là. Après, je continuais à travailler un peu avec mes copains. Ça m'a donné l'occasion quand même... Je pense que Cédric, je ne veux pas dire de bêtises, Cédric Kahn, il m'a appelé parce qu'il avait vu, c'était après Lemming, d'une certaine manière, le film suivant de Dominique.
Moi, tout à fait.
Voilà, et on a travaillé ensemble sur Feu Rouge, puis sur L'Avion. Mais je ne suis pas non plus... Au fond, j'ai continué à faire la façon dont j'avais l'impression que ça se faisait, c'est-à-dire assez... Enfin, je ne faisais pas de plan de carrière du tout.
Ouais.
Je me disais, je vais quand même essayer de réaliser des films quand l'envie, l'idée, si les gens sont d'accord pour les produire.
Si ça intéresse des gens, oui.
Voilà. Mon premier film s'est fait relativement vite. Oui, c'était 3 ans après Harry. J'ai fait vraiment mon premier film qui était présenté à Cannes.
Qui a tué Bambi,
c'était. Qui a tué Bambi, voilà. Aussi au César. Mais c'est vrai que... Un des trucs qui a été essentiel pour moi, c'est de continuer à travailler avec... je suis assez fidèle, il faut croire.
Ouais,
mais avec des amis.
Ouais.
Il y a des nouveaux amis qui sont arrivés en chemin, mais j'essaye de pas... d'une certaine manière, quand on a joué au ping-pong ensemble avec des idées, qu'on est... Enfin, écrire, pour moi, c'est beaucoup rentrer dans la tête aussi de la personne avec qui je travaille, rentrer dans son univers. Il y a quelque chose qui est très... créer un monde dans une logique qui est celui du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est quelque chose qui est très passionnant à faire et puis à refaire. Et comme en général les choses se sont bien passées, pas toujours avec des succès, il y a des films qui n'ont pas très bien marché en termes économiques, mais c'était toujours agréable à faire. J'ai jamais eu d'expérience désagréable de rencontre pénible. Et donc, ça s'est souvent...
Prolongé. tu le disais à l'instant, tu parlais de jeux de ping-pong. Finalement, pour toi, est-ce qu'il est plus facile d'écrire à quatre mains que tout seul ?
Alors, pour moi, c'est sûr que c'est mon plaisir. D'une certaine manière, écrire seul, c'est pas impossible, mais outre la question... la rigueur que ça demande, de l'exigence.
La discipline,
je trouve ça aussi moins drôle. Parce que moi, vraiment, c'est la rencontre, c'est presque le côté dialectique de se renvoyer la balle, discuter, d'essayer de voir quelque chose, c'est-à-dire de pas chercher à avoir raison, chercher à regarder dans la même direction, de voir ce que l'autre aperçoit, d'éventuellement lui faire regarder un truc un peu à côté, mais il y a des fois des choses qui nous paraissent très évidentes et la personne en face se dit « ne voit pas bien », puis ça devient plus clair. Enfin, c'est toute cette négociation-là, cette construction qui a, je pense toujours, il y a un film comme ça d'Hitchcock qui est L'ombre d'un doute que j'aime beaucoup. Il y a deux personnages secondaires qui sont le père de l'héroïne et un voisin ami à lui qui passe tout le film alors qu'il y a un drame qui se passe dans la maison, un danger réel. Eux, ils sont comme deux gamins et ils jouent à chercher le crime parfait. Donc, ils passent leur temps en second plan à dire « Oui, alors, ils pourraient faire ceci, cela. » Et souvent, moi, avec Dominique ou avec d'autres, j'ai l'impression qu'on est effectivement comme des gamins à à se raconter des histoires. Des fois, on poursuit quand on travaille, on mange dehors, ça, et continuer nos conversations. Et je me dis, mais les gens à côté vont se dire, mais qu'est-ce que c'est, ces deux fous qui sont là en train de dire, oui, alors parce qu'il pourrait, ça, alors quand il fait du vélo, il tourne sur son truc, mais. Moi, c'est un truc que j'adore. Voilà, je sais pas si c'est le côté enfantin de ça, de
ludique,
raconter des histoires.
En tout cas, ouais.
Ludique, oui, oui.
De raconter l'histoire, de se raconter l'histoire aussi. Mais tu disais, tu parlais de dialectique, tu parlais de collaboration, de parler la même langue. Mais quand c'est Dominique Moll ou Laurent Canté avec qui tu travailles depuis, j'allais dire 20 ans, mais même que tu connais depuis 30 ans, vous, maintenant, vous regardez dans la même direction, vous parlez la même langue.
Oui, mais bizarrement, c'est des fois sur des choses très, très ténues. Là, on a commencé à travailler avec Dominique sur un nouveau projet. Et voilà, c'est très mystérieux. Il y a des petits trucs. Bon, évidemment, il y a des endroits où on gagne du temps, on va plus vite. J'aime beaucoup une anecdote de Jean-Claude Carrière qui disait qu'avec Buñuel, comme ça, ils en étaient arrivés sur un projet où ils s'étaient dit on pourrait faire un truc où on répond que par oui ou non, mais on n'argumente pas, on n'essaye pas de compliquer. C'est un homme, oui, non, oui, c'est un homme. Il est policier. Non, il n'est pas policier, il est curé. Curé. Alors on pourrait, sans réfléchir, et presque comme ça. Alors, avec Dominique, on pourrait presque en arriver là. Ce n'est pas tout à fait le cas. Moi, j'adore justement les endroits où on... Évidemment, les endroits où on regarde en même temps et où on est d'accord, c'est super, mais les endroits où ça frotte un peu plus, où on se dit, non, mais tiens, ça coince un peu, là, c'est pas tout à fait... Est-ce qu'il y a de la confiance ? Voilà, ça, c'est essentiel, mais ça, c'est un truc, moi, que j'aime beaucoup, même avec des gens nouveaux, enfin, que je connais pas, quand je rencontre, je sais que c'est quelque chose qui m'est cher, c'est de dire, il faut être honnête, il faut se faire confiance. Moi, je pars du principe que ce que dit la personne est important et que je lui renvoie, c'est aussi sous le sceau d'une certaine honnêteté. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne cherche pas à avoir raison, mais en revanche, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne vois pas, je dois le dire. Ou si, tout en faisant attention de ne pas éteindre les choses.
Oui.
Alors, c'est comment être constructif tout en sans imposer ses idées. Et
c'est
sans,
désidérata. Et, ouais.
Voilà. Et donc c'est
toujours au service du film en plus.
C'est toujours. Voilà,
c'est pas parce que c'est, ça peut être ça le problème aussi quand il y a plusieurs personnes à la barre, c'est que ça peut être chacun qui tire sa part de la couverture à lui et finalement le film peut en pâtir. Ouais.
Oui, ce qui est d'ailleurs, on sent bien que. Moi, honnêtement, j'ai quand même l'impression... En général, on ne parle que du film. Et c'est pour ça que c'est agréable et que ça se passe bien. C'est-à-dire que les égos sont quand même rangés. Et, non pas qu'il n'y en ait pas, il y en a toujours. Mais si on arrive à faire en sorte que... Justement, à jouer comme des enfants, c'est quoi l'histoire, comment y croire, qu'est-ce qui nous fait de l'effet, qu'est-ce qui nous impressionne, nous émeut, qu'est-ce qui nous largue, qu'est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir vu, voilà, toute question-là fait qu'on... Il y a un potentiel voilà, qui reste infini et qui est toujours des chemins.
Et alors, scénariste de cinéma, c'est un métier sur lequel on peut avoir des idées préconçues. Parfois, c'est un métier qu'on peut un peu fantasmer. Si on prend les choses de façon très concrète et pratique, toi, il y a tout ce rôle en amont dont tu parlais, c'est-à-dire qui peut parfois faire l'objet d'un ping-pong entre toi et la personne qui va réaliser le film. Il y a le moment forcément où le scénario aboutit, on le présente notamment en vue d'obtenir des financements. Mais toi, en tant que scénariste, est-ce que ton rôle, il s'arrête au moment où le script en tant que tel est validé ou tu es également, tu parlais de choses, de frictions, de choses qui ne vont pas sur le plateau. Parfois, c'est sur le plateau qu'on s'en rend compte et finalement, on se dit « Ah oui, on pensait, mais finalement, ça ne fonctionne pas. » Est-ce que toi, tu es, j'allais dire jusqu'au montage, toi, tu es présent de bout en bout sur le film ?
Alors, moi, j'ai... Bon, c'est ma chance. ça a un coût aussi parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais ma complicité avec la plupart des gens avec qui j'ai travaillé fait qu'il y a quand même beaucoup de films, enfin, notamment ceux de Dominique, mais de Laurent, pour le dernier de Robin, où je suis non seulement effectivement pendant toute l'écriture, mais pendant la préparation, le casting, pendant le tournage, le montage, la sortie. Donc je suis... comme un expert du film. Enfin, je ne suis ni producteur ni réalisateur du film, mais ça me plaît d'être à tous les endroits de décision. Et quand il y a la confiance non seulement avec la réalisatrice ou le réalisateur, mais avec la production, avec la distribution, c'est une chance vraiment inouïe. Donc moi, c'est vrai que c'est très... Le fait que le dialogue se poursuive, oui, sur le casting, sur le plateau, les discussions, les choix techniques, les plans... Alors c'est pas... Là aussi, ça va être très différent selon la personne que j'accompagne, mais... Et je ne suis pas sur le plateau comme, ou au montage comme scénariste qui surveille qu'on respecte
l'intégrité
du scénario. Donc, dire au contraire, c'est-à-dire en tout cas, c'est l'expertise du film. Moi, c'est toujours ça. Pour moi, le scénario, c'est évidemment une étape importante, mais c'est un objet qui est voué à être, qui n'est jamais totalement fini et qui ne voit jamais vraiment le jour puisqu'il se transforme en... Voilà, c'est une espèce de chenille un peu bizarre. Et des fois, on la trouve très belle et on se dit... Puis de papillon est moins bien que prévu, des fonds firmes. Mais c'est l'objet, c'est le film. Enfin, vraiment, il y a
la destination finale et l'objectif, de toute façon, le scénario est au service de ça. Voilà.
Et donc, la présence dans les différentes étapes, c'est une chance pour moi parce que c'est comme si je suis confronté au même choix que les actrices, mais sans la pression qui est quand même énorme quand on réalise et que je connais un peu pour l'avoir fait. Quand on accompagne, il y a quelque chose qui est... On vit tout avec plus de légèreté d'une certaine manière, mais aussi, pour moi, d'intensité. Il y a quelque chose qui est très... C'est-à-dire que la pression de la réalisation peut inhiber un peu, alors que tu es à côté. Moi, ça m'est très agréable de... Mais je ne veux pas dire que je passe mon temps à dire des choses, à faire des commentaires.
Et finalement, c'est aussi pour ça que tu citais ton premier film qui a tué Bambi. Tu en as également réalisé deux autres par la suite, donc L'Autre Monde. Et il me semble
dans la forêt.
2011, et dans la forêt, donc dans L'Autre Monde, c'était avec, il me semble, Louise Bourgoin et Melville Poupeau, et l'autre, et pardon, dans la forêt, c'était avec, porté par Jérémy Elkaïm, puisque tu avais, il me semble que tu étais également co-scénariste d'un film de Valérie Donzelli dans lequel il était.
Oui, Valérie Donzelli et Jérémy, je suis très proche d'eux, et dès que Valérie a fait ses premiers courts-métrages et puis ses longs-métrages, j'étais dans les parages à discuter avec elle. Pour le coup, ce n'est pas le cas des deux derniers, mais on se voit toujours, on parle de faire des choses ensemble. Et donc, effectivement, sur Main dans la main et Marguerite et Julien, je suis intervenu scénario, mais j'avais lu des versions de La guerre est déclarée, j'ai montage. Encore une fois, pas pour dire que j'y ai eu un rôle, mais c'est d'être... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de mes rêves de gamin, c'est que d'être à cet endroit où on fabrique les histoires, moi, ça continue à me faire rêver et à être... Donc c'est un plaisir inouï. Et évidemment, quand on est réalisateur, même si on fait des films très différents, qu'on essaye de faire des films très différents les uns des autres, on reste malgré tout enfermé dans sa tête. Quand on est scénariste en travaillant avec des gens très différents, on est un peu plus comme une comédienne ou un comédien. Ouais. On traverse des univers, on reste soi-même, mais les films, d'une certaine manière, peuvent avoir... Enfin, on en ressent vraiment les différences. Là, c'est marrant parce que sur La nuit du 12 et L'île rouge, les tournages étaient assez rapprochés, se chevauchaient un peu. Je ne pouvais pas être complètement sur le film de Dominique parce que j'étais à Madagascar avec Robin sur le film, mais je voyais les rushs de Scar. Dès que je suis rentré de Madagascar, je suis allé sur le plateau de La nuit du 12. Et le contraste, évidemment, non seulement des deux pays, des deux univers, voilà, choc thermique, mais de la façon de travailler, Robin tourne à deux caméras, quelque chose comme ça, de tout flamboyant, d'un peu...
Un peu bouillonnant.
Bouillonnant, voilà, pendant les... Et Dominique, il a un truc comme ça, très réglé, le plateau est ultra calme et très chaleureux aussi, mais avec un truc...
Millimétré. Voilà,
on entend sa grande voix. Enfin, c'est très... Vraiment, j'avais des fous rires en arrivant sur le plateau de Dominique en me disant j'ai quand même une chance inouïe d'être comme ça, une petite souris qui peut circuler dans ces trucs-là.
Et finalement, c'est aussi parce que tu avais assisté à plusieurs tournages de bout en bout et que tu avais vu justement les différents styles de réalisation, de mise en scène, même de chef d'orchestre sur le plateau, que peut-être que quand tu as sauté le pas en tant que cinéaste, le choc... était moins abrupte qu'on peut l'imaginer.
Oui, enfin bon, moi j'avais fait des courts-métrages aussi. C'est quand même. C'est bizarre parce que faire un film, c'est pas facile, mais c'est surtout faire un bon film qui est difficile.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent, dérailler en cours de route.
La différence entre un mauvais. Enfin, faire un film, au fond, on répond à des questions, un truc, ça va, je pense, c'est à la portée de pas mal de gens. Il y a beaucoup de pression. Mais après, c'est d'y mettre à la fois tout ce qui nous tient à cœur, mais de pas le corseter trop, pas l'étouffer en voilà, c'est qu'il ait sa vie propre, enfin tout voilà, réussir le film c'est difficile. Alors et bizarrement, l'inconscience qu'on a sur les premiers films, c'est une force aussi, enfin et bon, alors l'expérience c'est aussi une force, mais on perd à des endroits et on gagne à d'autres,
peut-être en spontanéité, tu veux dire.
Il y a une forme, enfin en tout cas on ose des choses des fois sur les premiers films, ça, des gens aussi, mais qu'on s'empêche un peu après parce que c'était gonflé ou et qu'on s'interdit plus certaines choses. Après, mais il n'y a pas de règles. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... C'est pas forcément plus facile après, c'est surtout ça. C'est que, voilà, c'est toujours différent, c'est toujours une épreuve, c'est toujours énorme et plein de... Enfin, c'est très jouissif. Hein. Moi, je souhaite à tous les gens qui rêvent de faire ça d'y arriver, parce que c'est super. Mais c'est... Les difficultés, elles sont... Voilà, c'est les mêmes questions. On se pose les mêmes questions que les cinéastes, quoi, le plus. C'est, même bien quand sûr. On fait un petit film, c'est déjà des grandes questions, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Et quand on aura beaucoup d'argent, c'est d'autres difficultés, mais ça reste, ce qui compte, c'est toujours les mêmes.
Et ce qui est différent aussi quand on est cinéaste, réalisateur, ce que tu disais, c'est qu'on porte le film sur ses épaules, on est un petit peu le gardien du temple, y compris d'un point de vue, du point de vue du budget, d'un point de vue financier. Est-ce que, justement, dans les trois films que tu as réalisés, cet aspect-là, c'est-à-dire non seulement de terminer le script, mais de réussir à le vendre, à convaincre les gens, est-ce que ça, c'est cette épreuve-là qui a été... plus difficile.
Disons que, moi j'ai plutôt eu de la chance, je me pose pas trop ces questions-là. Moi je me dis, on veut raconter un truc, si les gens s'y intéressent, c'est leur responsabilité de mettre de l'art dessus, s'ils veulent pas, ça me soulage, le fait que je vais pas porter. Peut-être que si j'étais multimillionnaire, j'essaierais de produire mes propres films, mais je trouve bien que ça soit justement à plusieurs, qu'il y ait je pense par exemple que quand on est écrivain ou au fond on est seul avec sa feuille de papier ou son ordi, et la responsabilité, le poids, c'est entièrement sur soi. Nous, quand on fait un film, justement, on délègue quand même. Moi je me dis toujours, si j'ai un scénario qui plaît et que les gens sont prêts à mettre dessus, disons à eux, c'est super, ça veut dire que ils portent une part du poids du film. Alors après, on en a quand même lourd sur les épaules, mais et puis quand ça marche pas, on se retourne quand même pas mal vers vous en disant désolé, c'était pas terrible. Alors que c'est quelque chose qui reste collectif. Quand c'est réussi, c'est collectif, et quand ça marche moins financièrement ou qu'on considère que c'est raté, c'est aussi des problèmes collectifs. Moi, je suis pour partager
la collectivisation des succès
après,
comme
c'est
des...
C'est vrai que c'est aussi des choses très intimes et personnelles qu'on met en avant, et c'est ça qui est des fois difficile, mais aussi très excitant.
Pour revenir à ton activité de scénariste, tu citais tout à l'heure le film Feu Rouge de Cédric Kahn. Donc, tu as travaillé sur plusieurs adaptations de films qui étaient des romans, puisqu'il y avait notamment Feu Rouge qui était adapté d'un roman de Georges Simenon. Ensuite, il y a eu La Dame dans l'auto avec, je ne sais jamais le titre, dans l'auto avec des lunettes et un fusil, voilà, je l'ai dit dans le bon sens, pour Johan Sarr, donc de Sébastien Japrisot. Et enfin, un autre film de Dominique Moll qui était Seules les bêtes, adapté d'un roman de Colin Niel. Est-ce que dans ces cas-là, finalement, il y a cette, tu disais, on s'invente des mondes, on s'imagine des choses dans la tête. Là, étant donné qu'il y a le monde, il existe déjà, il a déjà été, on lui a déjà donné vie. Comment, en quoi le travail est-il différent finalement ?
Un peu bêtement, je dirais que ça facilite quand même les choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même, pour le coup, on parle déjà de quelque chose qu'on a eu tous sous les yeux. En l'occurrence, là, c'est des réalisateurs ou la production. On va essayer de regarder dans la même direction, mais à partir de ce bouquin. Donc, il y a un univers commun qui aide au dialogue. Après, il peut créer aussi des malentendus, parce que en ayant lu un livre, on se raconte un truc et on va sentir les différences.
Les grilles de lecture qui peuvent diverger finalement.
Mais au fond, là, en l'occurrence, c'est trois livres. Moi, c'est trois livres que j'aime beaucoup. Et alors, pour le le Japriso, c'est un peu différent parce que pour le coup, c'est le seul scénario que j'ai écrit sans savoir qui allait le réaliser. Mmh. C'était avec un producteur et voilà que j'aime beaucoup et qui. Donc ça s'est fait d'une manière un peu étrange parce que j'ai jamais rencontré Johann Sfar et d'accord. Donc j'ai vraiment travaillé plus sur un truc, voilà, une adaptation d'un bouquin et le réalisateur se l'est approprié avec la part de surprise pour moi de certains choix de mise en scène. Mais pour que ça soit pour Cédric ou Pébette, c'est vrai que j'ai appris aussi, les livres sont super et l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui nous plaît, de le faire ressortir, de se l'approprier. L'approprier, c'est pas, au fond, moi, c'est pas ce que je trouve le plus difficile, c'est-à-dire parce qu'on le fait presque inconsciemment, on fait des choix. Mmh.
Mais si on prend le cas, par exemple, de Simenon, c'est aussi une façon très spécifique d'amorcer le récit, de faire s'enchaîner les événements, même l'usage de la langue, c'est très précis. Donc finalement, est-ce que ça, il vaut mieux... Est-ce que tu disais que ça facilite le travail puisque c'est quelque chose qui préexiste déjà, mais est-ce que parfois ça devient presque encombrant?
Je me suis pas posé la question comme ça. Enfin, j'ai pas eu ce sentiment-là avec les films. Mais c'est aussi parce que pour Feu Rouge, Cédric avait déjà travaillé d'ailleurs sur une version avec Laurence Ferrara-Bermosa, et donc il savait quand même assez ce qui
Il avait une idée assez précise déjà.
Dominique, pour Seules les Bêtes, il m'a fait lire le livre en me disant, j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, tout ça. Et est-ce que il avait peur que ça soit un peu trop glauque ou que voilà. Et moi, quand je l'ai lu, je lui ai dit, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'idéal aussi parce que c'est des gens qui rêvent d'amour. Alors ils sont très seuls, mais ils veulent qu'on les aime chacun. Alors ça leur fait faire des conneries et c'est une histoire sombre, mais il y a aussi de l'idéal, et on a commencé à parler comme ça, et ça s'est fait très naturellement. Mmh. Colin Niel a été super, je crois qu'il a aimé le film, et on n'est pas tombé, enfin moi dans mon expérience, je me suis jamais trouvé avec des gens, Simenon et Japriso étaient morts.
Ils n'étaient plus là pour, effectivement. Après, il y a parfois les ayants droit, il faut, bien sûr.
Compliqué. Mais pour Colin et Pauline Guénin pour La Nuit du 12, c'est deux qui ont été vraiment super, qui à la fois nous ont laissé
le champ libre de
la liberté, qui étaient des spectateurs curieux de découvrir.
Mmh. Et alors, tu parlais de La Nuit du 12, le livre, puisque ce n'est pas un roman, sur lequel c'était basé. Et justement, c'était le sens de ma prochaine question, puisqu'il y a également des films et des œuvres sur lesquelles tu as travaillé qui sont, quant à elles, des adaptations de faits divers, puisque La Nuit du 12, à la base, il y a un fait divers, même si vous vous en êtes un petit peu éloigné, notamment pour aborder une thématique plus vaste, qui est notamment la violence faite aux femmes au sens large, on peut dire, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Et tu as été également le créateur et le réalisateur pour Netflix d'une mini-série sur l'affaire du petit Grégory. On y reviendra un peu plus tard. Et là, c'est encore différent, puisqu'on parlait de s'approprier un travail préexistant. Là, la fiction se frotte au réel, dans ce qu'elle a parfois de plus spectaculaire, voire de plus sordide. Là, comment ça se passe, là encore?
Disons que ce qui change vraiment avec le fait divers, c'est qu'il y a des gens dans la vie réelle dont c'est l'histoire. Et donc, on a déjà, quand on raconte une histoire, moi, je me sens responsable. On ne doit pas faire n'importe quoi. Mais quand c'est arrivé à des gens, qu'il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont accusés, des gens qui ont souffert, qui souffrent, et que c'est la vraie vie, quoi. C'était le cas pour La Nuit du 12 et a fortiori pour un documentaire sur l'affaire Grégory. J'avais cette pression-là de me dire, il faut être scrupuleux, on n'est pas là pour faire son malin. C'est la vraie vie des gens, c'est important.
De garder beaucoup de respect
Faut savoir qu'est-ce qui... Comment dire ? Il ne s'agit pas de s'empêcher de dire les choses, encore une fois, de s'auto-censurer, mais il faut creuser à des endroits où ça nous paraît voilà, important et c'est pas juste des caprices ou des trucs. Donc c'est touché. Après, les faits divers, et surtout, bah, c'est des histoires. Et c'est souvent des histoires fortes parce que, voilà, parce que c'est quoi ? C'est l'extraordinaire qui surgit dans le quotidien, bien c'est sûr. La violence, la mort, le mystère, les côtés pas glorieux de l'humain. Voilà, donc l'inconscient, des tas de choses et qui font que c'est souvent, enfin bon, énormément de livres, de films, ça sont inspirés de faits divers et des fois même des trucs qu'on soupçonne pas. Mais parce que ça, voilà, c'est des histoires puissantes. Donc c'est finalement pas si différent, sauf qu'il y a cette responsabilité en plus.
Et alors, justement, si on prend l'exemple de l'affaire du petit Grégory, c'est une histoire qui, dès ses débuts, aura été très représentée dans la presse, à la télévision, qui a été un véritable phénomène de société. D'ailleurs, tu parlais de l'aspect de mystère, étant donné que c'est une affaire qui est encore nimbée de mystère, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc il y a beaucoup de choses qui sont alimentées par ça. Là, c'est d'autant plus... est-ce que c'est un défi d'autant plus important, c'est-à-dire que de pouvoir d'une part raconter des choses nouvelles et ensuite de s'attaquer à quelque chose sur lequel les gens ont peut-être des idées préconçues ou alors sur lequel il y a...
Ben oui, moi quand c'est une productrice, Elodie Polo Ackermann, qui est venue me trouver avec comme ça en me disant bon, je sais que. Enfin, je vous connais comme cinéaste et scénariste, mais moi, j'ai un projet d'une mini-série documentaire sur l'affaire. On a discuté. Moi, je connaissais un peu l'affaire. Bon, j'étais à l'IDEC en 1984, quand l'affaire a commencé. La discussion était très intéressante, mais je lui ai dit, mais j'ai pas la légitimité, j'ai jamais fait de documentaire, je suis pas un expert des faits divers, ça peut m'intéresser comme ça, mais... Bon, et puis, après la discussion, évidemment, quand même, j'ai relu des choses sur l'affaire, notamment l'énorme bouquin de Laurence Lacour sur Le bûcher des innocents, Je me suis dit que c'est vrai quand même que l'histoire est complètement dingue, tout ça. Et énormément, effectivement, de choses avaient été faites, mais qui étaient comme qui s'empilaient les unes derrière les autres, enfin sur les autres, et de manière souvent quand même assez courte, et on rabâchait un peu toujours les mêmes trucs. Et là,
avec parfois la part de curiosité malsaine ou de sensationnalisme qui a
voilà,
dans le traitement de ce genre.
Qui a toujours dans le fait divers, et moi je ne veux pas trop condamner non plus, parce que c'est aussi quelque chose qui essaye de... Enfin, il peut y avoir des complaisances sordides et répréhensibles, mais il y a malgré tout dans... Enfin, en tout cas, moi je peux ressentir de la curiosité pour les faits divers, mais parce que je pense que c'est aussi des tragédies qui permettent de comprendre des choses de la société, de l'humain.
De la société, voilà, y compris la part d'ombre qu'on peut avoir en nous. Finalement, c'est des histoires c'est ce que tu dis, c'est l'extraordinaire qui surgit dans le quotidien. Donc, c'est d'un quotidien qui nous ressemble, et puis ça va être cette chose qui sort de l'ordinaire qu'on peut aussi, auquel on va, qu'on peut comprendre.
Moi, avec quand on s'est revu avec Elodie, j'étais censé, j'avais dit non, mais j'avais fait un peu du chemin, et elle me demandait de rencontrer d'une certaine manière l'équipe qu'elle était en train de réunir pour faire ça. Bon, et puis j'ai rencontré l'équipe, et puis voilà, et puis je me suis mis au travail presque sans m'en apercevoir, parce que le fait d'avoir du temps, l'idée de dire, on a au départ, ça devait être 5 fois 45 minutes et puis c'est 5 fois 1 heure. Mais que j'avais le sentiment qu'on pouvait approfondir quand même les choses, enfin presque le fantasme d'être exhaustif, ce qui est loin d'être le cas. Mais voilà, de pas être simplement dans la répétition de choses qui se sont déjà dites, le fait de pouvoir chercher des archives, de faire parler des gens, de prendre, encore une fois, d'être scrupuleux, de travailler. Et l'équipe qu'Elodie avait réunie était super. Les co-réalisatrices que j'ai eues avec moi et qui ont pu mener les interviews, faire les recherches, commencer des choses au montage. Voilà, moi, j'étais un peu dans la position du superviser l'ensemble, de réaliser l'ensemble. Mais c'était là aussi un travail très collectif et qui a été, pour moi, enfin, très intense, parce que c'était en 13 mois du début de l'écriture au rendu à la plateforme. Mais ça m'a ouvert plein de choses. Évidemment que la nuit du 12 a profité aussi de certains... De certaines choses que j'avais ressenties dans la réalisation de la série. C'est vrai que le documentaire notamment, le fait de s'apercevoir que c'est l'importance des personnages, le fait que c'est des histoires qui arrivent à des gens, l'incarnation, quoi, que quand on raconte des histoires, que ça soit en fiction ou en documentaire, des choses les plus importantes, c'est les personnages, c'est qu'ils agissent pour eux-mêmes, quoi. Et quand on arrive à les faire vivre, vraiment, après, les choses prennent vie et c'est la magie opère, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a aussi cette notion, peut-être à l'écriture, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, surtout dans ce genre d'affaires, peut-être la réalité est peut-être moins éloignée de la fiction qu'on le croit. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un parallèle qu'il me semble sur lequel qui est présent dans la série, puisqu'il y a cette notion, quand on parle de corbeau dans ce genre d'affaires, c'est quelque chose qui on peut trouver un parallèle avec Le Corbeau, le film d'Henri Georges Clouzot également.
Oui, alors ça, c'est marrant, c'est venu d'une contrainte, c'est que comme on était sur un public très international, et en France, un corbeau, on sait que c'est quelqu'un, en dehors d'un oiseau, c'est aussi quelqu'un qui envoie des lettres anonymes, et la traduction ne marche pas du tout en anglais ou en espagnol. Et donc, il y avait... Moi, je tenais à ce qu'on se serve quand même du terme corbeau.
De le contextualiser, par contre.
Mais voilà, il fallait donner un peu une piste. Et moi, j'avais le souvenir, comme ça, d'avoir vu enfant, justement, le film de Clouzot qui m'avait terrifié. Et je me souvenais de cette scène où il balance la lampe. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on pourrait... Enfin, oui, il parle de la vérité, de l'ombre et de la lumière... Et donc, dès l'écriture, pour le coup, j'ai proposé, en l'occurrence aux Américains, puisque c'était Netflix, d'utiliser comme ça des bouts de... Alors, ils ont adoré ça, ils trouvaient ça ultra français, un peu arty, mais très... ça leur plaisait. Et c'est vrai que ça racontait quelque chose aussi du lien avec le cinéma, avec le... Parce que le film de Clouzot est tiré d'un fait divers qui est à l'origine c'est comme ça qu'on en est arrivé à associer le corbeau à le fait d'envoyer des
lettres anonymes,
des appels, des lettres anonymes. Mais ça crée un truc, et après, évidemment, la dimension morbide du corbeau rajoutée.
Bien sûr, oui. D'autant que c'est l'intertextualité ou le jeu de référence avec le film de Clouzot peut être intéressant, puisque c'était le portrait d'une petite ville qui est soumise à la rumeur, au colibé, des rumeurs qui sont colportées, des vies qui vont être brisées aussi. Donc ça participe de ça et de ce dialogue justement entre fiction et réalité.
Oui, tout à fait. Et je trouvais que ça avait un écho, et alors ça c'est presque confirmé, mais avec des choses très actuelles qui sont les réseaux sociaux. Par exemple, le fait que l'affaire Grégory, au fond, a commencé avec des appels anonymes parce qu'on installait le téléphone, alors tardivement, puisque c'était en 84 dans les Vosges, et que du coup, quand on installait le téléphone, les gens... Il y avait une pratique malfaisante comme ça au début. Et je me dis, au fond, les réseaux sociaux, il y a eu un peu de ça. Enfin, il y a toujours un peu de ça. C'est-à-dire que l'anonymat, le machin, fait que sort l'envie de nuire, comme ça, peut prendre le dessus. Et peut-être que ça se civilise avec le temps, quoi, enfin que le médium
peut-être
devient jeune. Oui, j'ai de l'espoir. Moi, j'ai assez confiance dans le.
Et oui, et finalement, ce message, notamment par rapport aux réseaux sociaux et toujours cette rumeur dont les moyens techniques divergent, ça, c'est justement quelque chose qu'on retrouve dans La Nuit de 12, puisque c'est une histoire très contemporaine avec des thématiques, on le disait, très contemporaines. Et pour autant, il y a cette, finalement, on pourrait dire, les comportements et les vices humains qui restent. Et c'est ça, peut-être le fil rouge aussi.
Bah, disons que je sais que sur La Nuit du 12, au départ, presque le déclencheur pour Dominique, c'était un policier qui est hanté par une affaire et par la mort d'une jeune femme. Et je pense que c'est un thème qui est ultra présent dans le cinéma noir, enfin
dans la littérature policière.
Policière, voilà. Bon. Mais dans cette affaire-là, il sentait qu'il y avait quelque chose d'à la fois plus. Enfin, en tout cas, qui le touchait lui, qui lui parlait très, très vite. On a senti que que l'idée d'un homme qui est parce que c'est aujourd'hui, qui est dans un univers ultra masculin de la police, ouais. Mais qui est lui-même bousculé par cette violence masculine, enfin, qui se dit, mais qui en arrive quand même à se poser la question de sa propre responsabilité. Dans la violence masculine, bon, et quelque chose qui finalement nous concerne, nous, cinéastes, scénaristes, hommes contemporains, c'est-à-dire qu'on n'était pas très différents des deux enquêteurs, de Bully Lanners et
Bastien Bouillon.
Et Bastien Bouillon, parce qu'on était, voilà, deux hommes qui veulent faire un film sur des hommes qui enquêtent sur une femme qui a été tuée par des hommes. Et donc se dire pourquoi. Pourquoi nous, bonhommes, on s'intéresse à cette histoire-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu inquiétant? Est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions sur nous? Et donc, voilà, les questions qu'on se pose comme cinéastes, les enquêteurs se les posent dans leur travail. Et c'est ce qui crée, je pense, aussi une forme de sincérité, plus le poids du réel, enfin, le fait qu'on sait que c'est des histoires vraies. Et puis là aussi, la dimension irrésolue de l'affaire, enfin, ce qui au départ paraît contre-intuitif, parce que la règle du jeu du film policier,
c'est que le méchant est toujours assassin, arrêté. Il est arrêté à la fin. Et la police gagne.
Et que là, ou gagne pas, mais en tout cas, on connaît le nom, au moins. et que là, le fait de dire, non, on ne connaît pas le nom, mais on sait un peu pourquoi ça existe aussi. Est-ce que ce n'est pas dans l'air qu'on respire?
Il n'y a pas quelque chose de systémique, finalement.
Est-ce qu'il faut changer des choses plus profondément? En tout cas, s'interroger, quoi, s'inquiéter.
Effectivement, partir de l'intime pour raconter des choses beaucoup plus universelles qui sont à même de toutes nous toucher. Je pense, c'est mon avis tout à fait subjectif, mais je pense que le succès public et critique du film peut être expliqué au moins, en tout cas en partie, par ça, puisque c'est un film tout à fait de son époque. Et je pense que c'est... Alors, d'apporter des réponses sur ce genre de sujet, c'est compliqué, mais en tout cas, effectivement, d'avoir le mérite d'ouvrir le débat, de créer la discussion. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, de partir de cette intrigue policière pour finalement faire peut-être ce qui est davantage une auscultation de la masculinité, parfois dans ce qu'elle a de plus viriliste ou toxique. Et je pense que ça a participé aussi au succès du film. Alors, Gilles, on arrive malheureusement bientôt au terme de cette émission. Je vais te poser la sempiternelle, la traditionnelle, la proverbiale question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre qui te tient particulièrement à cœur? On a déjà parlé de pas mal de choses, de pas mal de films, mais voilà, il n'en restera qu'un.
Alors bon, c'est une question évidemment totalement absurde et impossible.
Évidemment, faire le deuil et passer outre. C'est quelque chose qu'on me dit généralement.
Je vais faire un truc qui est un peu, enfin qui est pour le coup lié à ma jeunesse à moi. C'est le film Eraserhead de David Lynch que j'ai vu à sa sortie, donc il y a très longtemps. Voilà, et qui, c'est même une histoire marrante parce que le cinéma où j'allais, donc ado, annonce, enfin il y avait une espèce de petit papier qui était qui prévenait qu'ils allaient sortir le film, une petite photocopie, voilà, et je m'étais pointé le mercredi où il passait le soir, et quand je me pointe à la caisse, le type qui me connaissait, le gars du cinéma qui me connaissait bien, me dit, écoute, on a un problème avec la copie, elle est complètement sous-développée, c'est tout noir, il y a la bande son, mais on voit rien. Donc nous, on a cherché à regarder hier. Il y a un monsieur qui est là et qui veut quand même regarder un peu. Si tu veux, tu regardes, mais vous ne tiendrez pas, c'est noir. Bon, je suis rentré dans la salle. On était donc ce monsieur et moi. Le monsieur est sorti au bout de 3 minutes. Moi, j'ai tenu un quart d'heure. Je n'osais pas trop aller jusqu'au bout parce que ça, voilà. Je me disais, c'est un peu absurde, mais j'étais déjà complètement fasciné, alors qu'il n'y avait quasi pas d'image. Enfin, on voyait des silhouettes par moment.
Mais finalement, c'est presque le genre d'anecdote qui pourrait être dans un film de David Lynch. c'est ça rejoint assez l'univers.
J'y suis retourné quelques jours plus tard à la dernière projection, quand ils avaient reçu le bon tirage de la copie, et où je suis resté complètement scotché. Et après, j'ai saoulé pendant des années des gens en disant... il faut voir, mais c'était son premier film à l'époque. Voilà, il n'avait évidemment pas la notoriété qu'il a aujourd'hui.
Ou l'aura, oui.
Et c'est vrai que ça m'avait complètement retourné le cerveau. Ça a été pour moi un truc assez... Enfin, je pense que ce n'est pas son meilleur film aujourd'hui, mais pour le coup, c'est tellement fait avec ce mélange de bricolage et de matériaux de l'inconscient, enfin, c'est tellement que ça... Enfin, qu'on ne sait même plus comment c'est fait, quoi. Voilà, que ça crée des émotions quand on fonctionne. Voilà, ça retourne la tête. Moi, quand quelques années plus tard... Moi, j'ai vu, après tous ces films, quasiment le premier jour où ils étaient visibles, tout ça, quand il a eu la Palme d'Or pour C'est l'heure et Lula, qui n'est pas mon film préféré, David Lynch, il y a des tas de gens qui m'ont téléphoné pour me féliciter parce qu'ils pensaient que j'avais été visionnaire de les saouler à l'époque avec Eraserhead. Voilà, donc c'est presque par fidélité avec le gamin que j'étais que j'ai choisi celui-là. Et puis c'est quand même un drôle de film. On racontait à l'époque que Kubrick s'était... procurer une copie, enfin avait acheté une copie et se la projeté dans son manoir. Voilà, et puis Mel Brooks l'a vu et a décidé de confier Elephant
Man. Il était producteur sur
David Lynch. Voilà, et ça reste quand même, je pense, un des plus grands, sinon le plus grand cinéaste, j'espère dire, en activité.
En ce moment, il fait plus de yoga que de film. Je crois qu'il s'est mis à la peinture.
Il est en question, on en parle. Mais
voilà. Voilà. Bah, il est revenu à la télévision avec Twin Peaks. Voilà, on a bouclé la boucle avec l'adolescent cinéphile que tu étais. Donc, c'est un bon moyen de clôturer la discussion. Gilles Marchand, merci beaucoup d'être venu à l'émission, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur le quotidien des scénaristes de cinéma et de nous avoir parlé de ton beau parcours et des beaux films sur lesquels tu as pu travailler.
Au revoir.
Merci. Bonne soirée.